Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Attribué à Pierre Desproges, mais probablement en fait un dicton anglais.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Il est 12h05, c'est entrée sans frapper. Il y a Catherine Robert dans la place, il y a Eviane, il y a Marie-Agnès Baupin et Gorion Delpature avec vous. C'est littérature étrangère. Aujourd'hui, un énorme morceau.
Mais oui, direction les USA avec le dernier roman de Paul Auster, et c'est toujours un événement, hein. Son premier roman depuis 2017 quand même. Il y a un roman court, pour une fois, c'est Baumgartner, l'histoire d'un vieux prof d'UNIF retraité et veuf qui tente de se remettre de la mort de son épouse 10 ans plus tôt. C'est triste et drôle, fort et léger, un tout bon austère.
Ah, chouette. La chronique de Joseph Skovanek aujourd'hui, dans Entrée sans frapper, il va nous parler de Margaret Simon, la reine du tricot.
Ah oui.
Si. Joseph est avec nous dans quelques instants. Et puis, un peu plus de 30 ans après, on va partir avec nos invités, Catherine Fay et Marine Saint-Clémente, sur les traces de Thelma et Louise, le film de Ridley Scott, avec les formidables
Susan Sarandon et Gina Davis,
film féministe, hein, bien évidemment, où Thelma et Louise vont s'offrir un week-end à la montagne, mais le premier soir, hein, dans un bar, Thelma va être agressée sexuellement, Louise va tirer, elles vont se retrouver fuyardes direction le Mexique, et la fin du film est restée complètement culte. C'est... Allez, on ne l'explique pas tout de suite. C'est le programme d'Entrée sans frapper.
La première...
Entrée sans frapper.
11h30, 13h.
Bonjour Joseph Skovanek.
Bonjour Jérôme, bonjour à tout le monde. Généralement, les gens s'extasient devant les capacités de certains enfants, enfants autistes ou pas d'ailleurs, qu'un bambin parvienne à jouer remarquablement au piano ou qu'ils connaissent je ne sais quel détail historique, cela émeut les gens, et c'est très bien. Mais les années passant, la même capacité n'intéressera plus personne. En particulier, les compétences des seniors ne suscitent en général que des haussements d'épaules. À titre personnel, j'ai souvent été frappé par une sorte de mépris condescendant que j'ai cru sentir chez un certain nombre d'historiens de métier pour les seniors qui s'intéressent, mettons, à l'histoire ou à la généalogie. Ceci étant, dans la presse de langue anglaise, un contre-exemple fascinant revient régulièrement ces dernières années, celui de Margaret Seaman. Quand on ne connaît pas cette personne, on peut se dire qu'il s'agit d'une grand-mère des plus ordinaires, comme il y en a tant, ou plutôt d'une arrière-arrière-grand-mère, car oui, dans sa famille, il y a 5 générations vivantes, et elle est bientôt centenaire. Mais les gens qui viennent aux expositions de Margaret Seaman se mettent subitement à trembler. Leur gorge se noue et beaucoup pleurent subitement. Bienvenue dans l'univers magique de la reine du tricot, car tel est son petit surnom. Margaret Seaman a en effet poussé l'art du tricot dans des dimensions nouvelles. Ah non, ici il n'y a point de chaussettes ni de bonnets, hein, ce sont des villes entières, des univers que la reine du tricot réalise. Elle me fait penser à certains de ses camarades autistes qui passent leur vie à dessiner des villes imaginaires, à ceci près que ici, la créativité s'exprime non pas avec le dessin, mais avec le tricot. En particulier, Madame Seaman a créé des maquettes de châteaux britanniques illustres, suscitant l'admiration de la reine Elisabeth II. Oui, Madame Seaman est désormais une célébrité, avec quantité d'admirateurs, mais cela l'ennuie plus qu'autre chose. Elle se décrit comme une vieille dame ordinaire, entre guillemets, qui simplement passe beaucoup de temps à exercer sa passion, le tricot donc. Sans surprise, sa vie est très régulière. Après une longue journée passée, devinez quoi, à tricoter, elle se couche à 9h du soir et continue à tricoter au lit. Et comme elle est fort occupée ces derniers temps par toutes sortes de projets nouveaux, elle ne s'endort pas avant 2h de la nuit. En vérité, plusieurs idées se bousculent toujours dans sa tête, et donc elle entame plusieurs projets et les exécute à tour de rôle, passant de l'un à l'autre. Chez un enfant, on parlerait d'hyperactivité, on lui donnerait divers médicaments, mais chez la reine du tricot, on trouve cela admirable, et d'ailleurs c'est le terme qui convient. À titre personnel, pardonnez, je n'y connais rien au tricot, je suis désolé, mais je me réjouis du succès de Margaret Seaman, tant dans l'univers de la différence, on a tendance à écarter les seniors. Si je vous dis autisme, pensez-vous à un enfant ou à une dame âgée ? Mais j'ai une raison supplémentaire de me réjouir. En fait, Madame Seaman, surprise, a commencé le tricotard quand elle était déjà octogénaire. Oui, telle pourrait être la grande leçon de la reine du tricot. On peut apprendre à tout âge. Et y compris, on peut apprendre à parler quand on est déjà adulte ou grand adulte. Les freins sont plus psychologiques que biologiques. Merci Margaret Seaman et à bientôt.
Merci Joseph.
La première.
See, if you get on that radio, you're going to find out that we're wanted in two states and probably considered armed and dangerous.
God damn you, bitch!
I don't think he's going to apologize.
Nah, I don't think so.
11h30, 13h.
This time, things have changed. Everything's changed. But I'm going to Mexico. I'm going.
Entrée sans frapper.
Film qui a marqué l'année 1991, signé Ridley Scott, et deux journalistes ont décidé de partir 30 ans plus tard sur les traces de Thelma et Louise pour voir le système d'oppression auquel, duquel elles avaient été les victimes, et si ce système d'expression d'oppression existait bien évidemment encore. Nos invités sont Catherine Fay, bonjour Catherine.
Bonjour Jérôme.
Et Marine Saint-Clément, bonjour Marine.
Bonjour.
Alors, on va le dire tout de suite, vous êtes amis dans la vie. Des fois, vous vous disputez, mais c'est normal, c'est ce que les amis font, et les amis aussi. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, et c'est ce qui fait évidemment l'intérêt livre. Vous avez une différence d'âge, c'est important, parce que finalement, Thelma et Louise avaient aussi une différence d'âge. Et c'est cette différence d'âge, des fois, qui fait que vous n'êtes pas d'accord sur tout, et qui scelle cette amitié particulière qui, visiblement, vous lie. Et c'est vous deux qui avez décidé de partir sur les traces de Thelma et Louise. Première chose, Gorian Delpature, vous avez revu Thelma et Louise. Pour ceux qui étaient un peu, et celles qui étaient un peu distraits ces dernières années, de quoi ça parle ?
Eh bien, c'est un film de 1991, réalisé par l'anglais Ridley Scott, sur le scénario d'une femme. C'est Kali Khoury qui a écrit le scénario de Thelma et Louise et qui va d'ailleurs remporter l'Oscar du meilleur scénario original l'année suivante, en 1992. Et donc, c'est l'histoire de deux amies, Thelma et Louise. Thelma est jouée par Gina Davis et Louise par Susan Sarandon. Louise, elle est serveuse dans un diner et Thelma, elle est mariée en un mari macho, pas très intéressant, pas très drôle. Et elles décident toutes les deux de partir en week-end pour s'amuser, pour se retrouver, s'amuser, sortir un peu du monde des hommes. Et elles vont passer une première soirée dans un bar, le Silver Bullet. Et dans ce bar, Thelma va être draguée par un gars un peu beauf, un peu lourd. Il lui paye des verres, il danse avec elle. Et puis sur le parking, il décide d'aller un peu plus loin. Thelma n'a pas trop envie, mais le monsieur, il comprend que les noms veulent dire oui. Et il va la violer. Et à ce moment-là, Louise débarque, assiste à la scène et tire sur l'agresseur, le violeur de Thelma. Et à partir de ce moment-là, les deux femmes s'enfuient. Elles sont pourchassées par les forces de l'ordre et par des forces de l'ordre qui sont essentiellement masculines. Les hommes pourchassent Thelma et Louise et ils décident de s'enfuir vers le Mexique et ça ne va pas forcément bien se passer.
La fin du film est absolument mythique. On en parlera évidemment avec nos deux invités, Catherine et Marine. Ça a été quoi le coup d'éclat ? Ça a été quoi la soirée où vous vous êtes dit « en fait, on va partir dans le sud-ouest américain sur les traces de ces deux femmes-là »
Alors oui, d'abord, on est deux amis qui aimons vivre plein de choses ensemble, mais on coécrit des récits d'aventure. Et on avait le projet de repartir ensemble avec toutes sortes d'idées de duos féminins sur les traces desquelles on voulait partir. Et nous étions à Nantes en train de fêter un prix littéraire pour notre précédent ouvrage. Et c'est à ce moment-là qu'on a assisté à une scène qui nous a beaucoup choqués. Une fille se faisait enquiquiner par un type qui tentait de la forcer de l'embrasser. Et j'ai eu un coup de sang, j'ai attrapé le type, je l'ai foutu dehors, et à ce moment-là m'est revenu en mémoire le film Thelma et Louise, ce moment où Louise vient sauver Thelma d'une tentative de viol, en tirant sur le type, c'était beaucoup plus grave, et j'en parle à Marine qui tout de suite me dit mais évidemment, et là, toc, on se dit non mais c'est trop fort. Non seulement ça coche cette valeur si importante de l'amitié, et en plus on va pouvoir explorer non seulement des États-Unis qui sont un peu oubliés des radars, mais toutes sortes de thématiques qui sont soulevées par le film.
Et puis comme vous l'avez dit, malgré cette différence d'âge qu'on a toutes les deux, on a eu vraiment cette même référence à ce même moment. On s'est dit que c'était quand même assez dingue pour ne pas repartir sur leurs traces.
Alors, vous allez partir, évidemment, sur les traces de Thelma et Louise, je vous lis. À nous de leur redonner la voix à travers les femmes et les hommes que nous croiserions sur notre route, de parcourir les territoires du sud et de l'ouest des États-Unis sans aucun parti pris ni plan précis, et tenter de comprendre, au fil de milliers de kilomètres, de jours et de nuits d'échanges et d'introspection, d'accords et de désaccords, nous n'aurions de cesse d'interroger ces frontières ténues entre le bien et le mal, pour que plus jamais le bord du précipice ne soit l'unique issue. Nave mort, le bord du précipice. Tous ceux qui ont vu Thelma et Louise savent de quoi nous parlons, puisque la fin est mythique. Cette voiture que Ridley Scott arrête dans les airs, avec les deux héroïnes à l'intérieur, prêtes à basculer, sinon en train de basculer dans le canyon, comme quoi il n'y aurait de sortie au patriarcat, à la domination masculine et à la traque des hommes que la mort comme solution. C'était une des choses très fortes, évidemment, dans le film de Ridley Scott. Alors, votre périple, Catherine et Marine, il va commencer à Little Rock. Little Rock, c'est dans l'Arkansas. C'est pas une ville banale. En fait, dans le film, c'est des personnages de fiction, Thelma et Louise. C'est là qu'elles habitent, tout simplement. Et donc, vous décidez de commencer là-bas à Little Rock. Et en fait, Little Rock, c'est loin d'être une ville anodine aux États-Unis. Taux de criminalité supérieur de 300% au reste du pays. Et puis, surtout, Little Rock, il y a plein de gens, là, ici, maintenant, qui nous écoutent à la radio, qui disent « j'ai déjà entendu Little Rock ». C'est les neufs de Little Rock. Little Rock, c'est une ville importante parce qu'elle a marqué une étape très importante du combat pour les droits civiques aux États-Unis. Little Rock, c'était quoi pour vous comme départ pour l'écriture de ce livre ?
Alors, pour nous, Little Rock s'est imposé vraiment parce que dans le film, par un jeu de devinettes, on comprend que Louise travaille dans un café de Little Rock et que Thelma vit dans une banlieue. En réalité, les décors sont en banlieue de Los Angeles, pas en Arkansas. Mais nous, on a vraiment décidé de coller au parcours fictionnel. Ce qui était assez marrant, d'ailleurs, c'est que sur place, à Little Rock, personne, évidemment, tout le monde connaissait Thelma et Louise, mais personne ne savait que le film débutait fictivement à Little Rock. Donc bien sûr, il y a cette histoire des Nine qui a vraiment marqué l'histoire de la ville, parce que dans un état très, très conservateur aujourd'hui, très marqué par la guerre de sécession, où les droits des Afro-Américains ont été vraiment réduits à néant à une certaine période, ça a été aussi le lieu de grands combats avec des figures féminines fortes, notamment.
Oui, Maya Angelou, entre autres.
Qui est née là-bas.
Absolument.
Exactement. Et c'était important pour nous d'aller interroger les deux parties. Parce que Little Rock fait partie de ces villes américaines où il y a quand même une forme de ghettoisation. Donc il y a des quartiers blancs et des quartiers noirs. On est allé chez les Baptistes à la messe pour explorer la partie blanche. Et c'était important pour nous aussi d'avoir l'autre volet.
Parce que c'est vrai que vous commencez le livre par l'église, ce qui n'est pas anodin quand on est dans le sud des États-Unis, parce que c'est quand même des gros mangeurs d'hosties là-bas. La Bible Belt, elle ne porte pas son nom pour rien, la ceinture de la Bible. Gorian.
Alors évidemment, durant votre périple, vous allez rencontrer pas mal de gens, un peu au hasard, même si je pense que Marine, vous êtes la méthodique des deux, et Catherine, vous êtes un peu plus bordélique, c'est ce que vous écrivez dans votre récit de voyage, vous vous soignez, et vous allez rencontrer toute une série de personnages, et vous commencez aussi assez vite votre périple avec le rapport des États-Unis aux armes, puisque bien entendu, Louise est armée. C'est grâce à un revolver qu'elle parvient à se défendre, à défendre Thelma. Donc le rapport aux
armes est
un des thèmes importants de Thelma et Louise. Et très vite, vous allez tomber sur un personnage qui m'a fasciné, que je ne connaissais pas. C'est Diane Morgan, une dame qui a une gun cave. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui est cette Madame Morgan aux États-Unis et ce qu'elle symbolisait dans votre périple sur les traces de Thelma et Louise?
Oui, alors c'est une femme, déjà, pour vous la situer un peu, elle a vraiment le physique de tout ce qu'on peut attendre de la bimbo américaine, avec un sourire ultra bright, un brushing à la Dallas, une robe très moulante, des seins refaits, vraiment opulents. Enfin voilà, elle est là-dedans, elle est un peu dans ce cliché-là. Jane est propriétaire donc d'un centre de tir. En route pour le Sénat, où elle veut conquérir, évidemment, en soutien de Trump. Alors oui, c'est une femme assez stéréotypée d'un point de vue de notre regard de Française et d'Européens en général. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'elle milite très ouvertement. Elle a déclaré que son centre de tir était une zone anti-musulman. Elle affiche des positions extrêmes qui sont... En fait, ça, c'est très caractéristique des États-Unis, enfin, particulièrement de ces États conservateurs. C'est qu'il y a une liberté de discours dans l'extrême. Comme dans le très progressiste, par ailleurs. Bah, dans ce cas-là, qui est un peu effrayante, et Jane, en fait, nous a posé des questions qui nous ont fait réfléchir, parce que elle pense que armer les femmes est une source d'émancipation, parce que les femmes peuvent ainsi se défendre. Ouais. Et puis nous, elle nous a posé la question, elle nous a dit, mais là, sur votre route ou en France, si vous vous faites agresser, que vous n'avez pas d'armes, il se passe quoi?
Oui, ce que vous écrivez, après tout, que serait-il arrivé si Louise n'avait pas tiré? Mais en fait, ce qu'elle vous raconte, c'est une énorme connerie, parce qu'on sait très bien qu'être armé augmente la possibilité d'être assassiné. Donc voilà, 1 plus 2 statistiques, c'est toujours bien les statistiques pour contrer les cons.
Et, mais Thelma et Louise était son film préféré quand même.
Exactement. Vous écrivez, sur l'ensemble des armes à feu détenues dans le monde par des particuliers à des fins non militaires, la moitié se trouve aux États-Unis. En nombre, elle dépasse la population du pays, 393 millions pour 328 millions d'habitants, enfants et personnes âgées inclus. Voilà, ça dit ça. Et ça dit pourquoi les États-Unis sont le pays qu'ils sont, avec le plus grand nombre de tueries de masse, notamment. Le port d'armes est absolument responsable de cela. Revoir quelques films pour Bowling for Columbine pour bien comprendre de quoi il s'agit. J'en reviens à l'Église du début. L'Église et la sexualité sont évidemment deux thèmes qui sont toujours imbriqués, parce que l'Église, évidemment, accepte que nous nous introduisions respectivement les uns dans les autres pour faire des enfants, pas pour le reste, bien évidemment, les valeurs morales de cette Amérique. C'est ce qui pèse sur ces deux femmes, Thelma et Louise, finalement. C'est que elles sont bombardées de valeurs morales, qui sont les valeurs morales catholiques des États-Unis, mais qui sont aussi les valeurs morales des hommes, du patriarcat, tu seras une femme, tu vas rester à la maison et tu vas écouter ce que je te dis. C'est ça qui étouffe ces deux femmes, finalement. C'est pas un hasard si vous commencez dans une église, si?
Alors, si, c'est un peu un hasard, parce que on a pour habitude de partir sans prévoir ce que l'on va faire. Et nous avons atterri un dimanche matin, sans avoir dormi. On s'est dit, on avait le décalage horaire. On se dit, par quoi va-t-on commencer? Et évidemment, dimanche, l'église. C'est là où on va rencontrer les gens, pouvoir recueillir toutes sortes de témoignages. Et on s'est retrouvés dans cette église baptiste. Et effectivement, on a été extrêmement surprise par ce qu'on a découvert. D'abord, des discours extrêmement entraînants, c'est-à-dire que le pasteur a tout d'un coach, et on se retrouvait en 5 minutes, totalement convaincu et rassuré, et avec une énergie décuplée. Et donc, c'était très, très particulier, parce que ça nous a fait nous poser des questions. Et suite à cela, on a discuté avec la femme du pasteur, et c'est là qu'effectivement, on a été assez surpris par ce qu'elle nous a expliqué sur la question de l'avortement, puisque le jour où nous avons atterri, commençait à émerger le fait que la loi de
fédérale,
la possibilité d'avorter...
Voilà,
exactement. Donc, on a posé cette question à cette femme qui nous a dit, enfin évidemment, qu'elle était totalement contre l'avortement. Et j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin en lui posant la question, mais si une jeune femme est violée et qu'elle tombe enceinte, que se passe-t-il? C'est Dieu qui l'a choisi, c'est une vie et on ne peut pas l'éliminer. Alors là, effectivement, on se retrouve à la fois choqué et en même temps, notre parti pris est toujours de ne pas juger, d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans la tête de chaque personne que l'on rencontre. Et aussi, ce qui est important, c'est que là, on met la lumière sur des personnages assez extravagants et assez effroyables, mais l'Amérique, les Américains, ce n'est pas ce genre uniquement de personnes-là. Ce n'est pas uniquement des personnes qui portent des armes, uniquement des personnes qui sont totalement embrigadées par des obsessions religieuses. Il y a toutes sortes d'autres personnes qu'on a rencontrées au fil du voyage.
Voilà, et vous allez rencontrer des hommes, des femmes, et on va continuer votre voyage. On commence à Little Rock, et puis en fait, Thelma et Louise, elles veulent passer le week-end à la montagne. Il y a deux solutions, soit c'est les montagnes Ozark, soit c'est les montagnes du Missouri. Vous partez dans le Missouri, ce qui est plutôt une bonne idée dans la vie, et vous arrivez dans une ville qui a l'air absolument effroyable, qui s'appelle Zinc, Z-I-N-C. C'est le fief de Thomas Robb, qui est un grand maître du Ku Klux Klan. Hein. Ça existe toujours, ces choses-là. Une des villes les plus racistes du pays. C'est quoi Zinc ?
Alors Zinc, c'est une sorte de hameau abandonné avec des maisons délabrées, mais au départ de cette surprise, parce que pour nous ça a été une surprise, c'est encore une fois l'inattendu du voyage, de l'aventure. On a dormi dans la voiture sous des arbres et on a été réveillé par deux drôles de types qui étaient hyper fiers de nous dire que nous étions dans le fief de Thomas Robb et donc du Ku Klux Klan. On savait que le Ku Klux Klan existait plus ou moins encore, mais alors à ce point-là, ça a été vraiment encore une fois un choc. Bon, là, pour l'instant, on met vraiment la lumière sur le début de notre voyage. On est toujours en Arkansas et c'est vrai que ça paraît effroyable. Mais notre périple et les États-Unis, attention, ce n'est pas uniquement cela.
Non.
Mais oui, on se retrouve là. C'est aussi cela, bien sûr. Et bien évidemment, quand on a su qu'on était dans le fief du Ku Klux Klan, quelle a été notre décision à la fois de journaliste, d'amis et de dingote, c'est on y va.
C'est ça.
Et oui.
Et non, l'accueil fut très agréable.
On n'est pas resté longtemps. Et puis comme on s'est dégainé aussi avec des sottises qui nous sauvent, on est reparti aussi sec. Mais ça nous a permis aussi ensuite de continuer notre route et d'arriver dans une ville totalement différente où là on est sous la lumière de personnes libres, de LGBT, de personnes qui ont toutes sortes de vies. Et qui, justement, nous ont dit qu'en effet, le Ku Klux Klan agissait encore en prenant, en essayant d'embarquer des personnes afro-américaines, des homosexuels dans la forêt pour les tabasser, parfois jusqu'à la mort, en effet.
Voilà, ça existe
encore. Oui, c'est la ville d'Eureka Springs. Et Catherine Marine, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous organisez votre parcours aux États-Unis comme des journalistes en suivant les traces de Thelma et Louise, mais votre parcours vous permet aussi de revoir avec un autre regard le film de Ridley Scott, et notamment on parlait du Ku Klux Klan et donc du racisme aux États-Unis. Et vous remarquez que dans le film, finalement, les minorités sont absentes, à part un seul personnage qui est un cycliste noir un peu curieux à la fin du film.
Il n'y
a pas de minorité dans le film. Donc qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion sur Thelma et Louise, cette absence de minorité ?
Alors, une fois qu'on a constaté ça, évidemment, bon, on a regardé le film une quinzaine de fois, image par image. Bon, on voit les personnes afro-américaines sont en arrière-arrière-plan. C'est des figurants qui apparaissent quelques secondes à l'écran. Il n'y a pas non plus de natifs, pas plus d'hispano-américains. Plus que de contester ça, on s'est posé la question finalement, et si Thelma et Louise avaient été noires ? Et si nous-mêmes, toutes les deux, avions été noires, en quoi les voyages auraient été différents ?
C'est la question effectivement que vous vous posez. Vous posez une autre question qui est très étonnante et à laquelle je n'avais jamais pensé, alors que j'ai vu aussi le film plusieurs fois. Vous dites, sur leur route, Thelma et Louise ne vont pas véritablement croiser de femmes solidaires.
Tout à fait.
Bien sûr, et c'était aussi l'objet de notre quête et de ce périple. Justement, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez la scène finale, qui est très très importante, qui a été vraiment notre Graal et ce qui nous a porté pendant toute la route. C'était de comment pourrions-nous sauver Thelma et Louise. Et qu'est-ce que nous pouvions transmettre à notre tour à travers notre périple, le voyage revisité, les personnes que l'on rencontrerait sur notre route? Qu'est-ce qu'on pourrait, nous, tisser comme fil pour aller encore à la rencontre d'autres femmes, d'autres hommes et continuer le dialogue et la quête de liberté et d'égalité?
Missouri, on va partir en voyage maintenant à Tulsa Greenwood dans le comté d'Osage. Il va y avoir évidemment la première immersion dans les terres des nations autochtones américaines. C'est très important dans le sud-ouest américain. On va aller en Oklahoma et on va terminer au bord d'une falaise au-dessus du fleuve Colorado. C'est la suite d'Entrée sans frapper avec nos invités Catherine Fay et Marine Sanclémente qui signent à la vie, à la mort sur la route avec Thelma Louise. Louise, chez Paul Sen.
11h30, 13h.
Entrée sans frapper sur la première.
Catherine Fay et Marine Sanclémente sont nos invités à l'occasion de la parution de À la vie, à la mort sur la route avec Thelma Louise chez Paul Sen. Vous êtes parties toutes les deux sur la route à la poursuite du mythe de Thelma et Louise, de l'Amérique de Thelma et Louise, du système d'oppression de Thelma et Louise. Vous êtes deux femmes comme elle, vous avez une différence d'âge dans votre amitié, comme elle, comme Thelma et Louise, et puis vous avez un passé, toutes les deux aussi, Catherine et Marine, vous le révélé dans le livre, mais qui vous lie hein, quelque part à Thelma et Louise, et c'est aussi ça probablement que vous êtes allés chercher sur la route. Gorian.
Oui, Marine et Catherine, eh bien, votre livre est composé de chapitres successifs que vous avez écrits chacune à tour de rôle. Donc, il y a un chapitre écrit par Marine et puis un chapitre écrit par Catherine tout au long du livre. Et ça permet d'avoir vos points de vue différents parce que vous ne pensez pas forcément la même chose. Non. Et notamment en termes de féminisme, on a parlé de l'Arkansas. Là, maintenant, vous roulez sur les routes de l'Oklahoma, vous passez tout ça et vous allez vous arrêter dans le plus vieux bistrot de l'Oklahoma hein, qui s'appelle le Haitian Saloon. Et vous racontez que vous allez tomber un soir sur un gars qui s'appelle Sky, qui est un peu lourd. Un peu lourd, comme dans la scène de Thelma et Louise, où un gars un peu lourd offre à boire, veut danser avec Thelma. Et vous vivez une scène un peu similaire, qui ne va pas être aussi dramatique. Et là, dans le livre, c'est l'occasion pour vous d'exprimer toutes les deux vos différences de point de vue sur le féminisme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi vous n'êtes pas d'accord, toutes les deux, Marine et Catherine, sur le féminisme?
Bien sûr, c'est très important et c'est quelque chose qui existait avant même de partir sur la route avec Thelma et Louise. On s'est rendu compte très rapidement, en commençant à préparer ce voyage, que nous n'étions pas du tout sur la même ligne concernant toutes les questions de... Alors, féminisme, bien sûr, on est féministes toutes les deux, mais il y avait un grand écart entre ce que moi je ressentais, ce que je pensais, ce que Marine pensait. Alors, évidemment, j'ai 30 ans de plus que Marine, donc une autre génération et une éducation particulière. Des repères, des modèles, voilà, enfin plein de choses qui ont fait que j'ai traversé des décennies comme ça en pensant que beaucoup de choses étaient normales. Marine pourtant pointait du doigt ces choses-là et c'est au fil du voyage, peu à peu, en rencontrant des femmes, des hommes, en discutant, en parlant beaucoup sur la route parce qu'on a quand même parcouru 10 000 kilomètres, donc il y a beaucoup de temps pour parler, que peu à peu je me suis dit il y a quelque chose qui cloche. Et ce fameux soir où Sky nous drague toutes les deux de façon assez lourdingue et moi je rigole bêtement, picole comme Thelma et Louise. On se réveille le lendemain. D'abord, on s'engueule en partant du bar parce que le type était évidemment un idiot, un dragueur lourdingue qui en plus nous a fait payer ses boissons. Enfin bref, on a été nuls sur toute la ligne, notamment moi, et je le reconnais.
Merci, j'attendais un petit...
Et c'est en se réveillant que... Donc c'est le seul soir où on s'est engueulé parce que ça a été un de nos périples les plus agréables au niveau d'une osmose amicale. Et là, on a parlé. On s'est mis à parler. Et en fait, ça a été très douloureux pour moi parce que j'ai compris que j'avais vécu beaucoup de choses qui étaient totalement inacceptables. Et cette porte qui s'est ouverte, mais comme avec une tornade. Dans un premier temps, ça a été difficile, mais ça nous a permis d'avancer dans cette question-là, de poser des questions différentes aux personnes qu'on rencontrait sur notre route. Et j'espère, dans le cas de générations comme la mienne, peut-être que ce que j'essaie d'expliquer, enfin au fil de la route dans ce livre, éclaire des choses qui sont des zones d'ombre, on va dire, pour beaucoup de femmes.
Marine, vous avez un droit de réponse aussi sur cette question.
Ouais, moi, j'ai un féminisme beaucoup plus assumé et assuré, en tout cas, qui est celui de ma génération aussi. Mmh. En effet, moi, ce Sky, bon, c'était un lourdingue qui nous chatouillait, qui nous faisait boire. Enfin, moi, ça ne m'amusait pas. Mais cela dit, j'ai aussi peut-être arrondi les angles sur certaines positions. En tout cas, j'ai été plus à l'écoute sur pourquoi les femmes de cette génération et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes de ma génération qui ne sont pas encore très éclairées et très au clair avec cette notion de féminisme. Pourquoi on pouvait penser ça? Quelles étaient en effet ces zones d'ombre qui méritaient d'être un peu éclairées? Et je pense que oui, ça m'a peut-être rendue un peu plus pédagogue aussi dans ma manière d'appréhender le féminisme.
Parce que c'est pas tant la question, je pense, de féminisme, mais plutôt de question de domination, de sexualité, de rapport à la sexualité, de toutes ces choses qui se traversent, qui s'entremêlent, qui sont très compliquées, en fait, à démêler pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes également.
Et puis, une attente, je pense, très forte de validation par les hommes, qui est le cas pour Thelma et Louise aussi. Je pense que c'est là aussi que se joue la charnière.
Bien sûr,
parce que dans mon cas, quand j'étais petite, pour moi, c'est qu'un homme me drague, c'était une reconnaissance, c'est que j'étais quelqu'un de bien.
L'amitié, c'est un des grands sujets de Thelma et Louise, hein, parce qu'en fait, leur amitié incroyable va se sceller durant ces deux jours, et dans l'adversité, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elles ont le FBI aux trousses. L'amitié, c'est aussi ce que vous racontez, toutes les deux, quand on part comme ça, je sais pas combien de temps, l'amitié est mise à l'épreuve et puis elle est resserrée aussi parce qu'on vit ensemble ce qu'on appelle des aventures. Vous écrivez « L'amitié est une énigme, un territoire dont on sort transformé » et là vous citez Anaïs Nin dans son journal « Chaque ami représente un monde en nous, un monde qui n'aurait peut-être jamais existé sans lui » et que cette rencontre a rendu possible. J'adore cette vision de l'amitié par Anaïs Nin. Est-ce que c'est aussi le sujet du film et donc du livre ?
Bien sûr, c'est le sujet peut-être central. Thelma, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que Thelma et Louise ne seraient pas parties l'une sans l'autre. Nous non plus. Lors de nos précédentes aventures, les deux femmes ne seraient pas parties non plus l'une sans l'autre. Voilà, c'est ce qui lie. Et puis, c'est aussi ce qui permet d'accepter un peu plus l'autre, ses différences. Avec Catherine, on est extrêmement différentes, même bien plus que Thelma et Louise ne le sont, je pense. Et ça permet de se remettre en question, de s'ouvrir un peu, d'être plus souple sur certaines choses. Je pense qu'on apprend beaucoup, beaucoup de l'amitié.
Oui, et c'est une force incroyable, l'amitié. Non seulement une force pour agir, pour co-construire, pour vivre des choses ensemble, mais aussi pour aller vers une métamorphose. Il y a quelque chose qui se passe, qui ne se passe pas exactement dans le couple, mais qui se passe beaucoup plus dans l'amitié, de l'acceptation du regard de l'autre, et de comme une sorte de fluide qui passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, dans notre cas, et qui fait qu'on devient presque comme une bête à deux têtes, et c'est hyper grisant et hyper puissant, en fait. Et ça nous met en mouvement, comme Thelma et Louise, et c'est vraiment aussi au centre de notre périple et de ce film et de ce livre, c'est toujours le mouvement avancer, 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 l'appel du large, l'appel de l'autre chose, l'appel de l'ailleurs.
Voilà, et le road movie américain de Easy Rider à Sailor et Lula, en passant par Bonnie and Clyde, c'est ce que vous citez, a toujours fait ça. Gorian Delpature.
Mais Thelma et Louise, c'est évidemment l'histoire de la fuite de femmes qui essayent de fuir le patriarcat, qui les oppresse, qui les domine, et on sait que la fin prouvera que la fuite se fait peut-être dans la mort, l'ultime liberté c'est dans la mort. Mais c'est intéressant parce que vous remarquez aussi durant votre parcours qu'en fait, la place des femmes aux États-Unis est extrêmement importante parce que les femmes sont souvent considérées comme les références morales de la société américaine. Alors comment expliquer ce décalage entre une société très patriarcale qui oblige presque Thelma et Louise à mourir et puis le fait que les femmes soient si importantes moralement aux États-Unis ?
Ça, c'est le décalage qu'on n'explique pas et qu'on a essayé de comprendre et qu'on est revenu avec encore plus de questions que de réponses à ce niveau-là. Je pense que c'est la même chose qui se joue, que ce soit en Belgique, en France et sur tous les territoires. Les femmes ont des places centrales et pourtant, elles sont absentes de plein de domaines décisifs majeurs. Donc j'espère qu'on aura une réponse à vous donner bientôt. C'est que ça ira dans le bon sens, mais pour l'instant, c'est encore un peu compliqué.
Finalement, après ces milliers de kilomètres à la poursuite de Thelma et Louise, qu'est-ce que vous avez découvert finalement, mesdames Catherine et Marine? Vous dites l'Amérique des fractures.
On a découvert que, alors oui, cette Amérique était très fracturée, mais on a été vraiment surprise par l'hospitalité de ces gens qu'on a rencontrés sur la route.
Oui, au premier abord, ils sont très sympas.
Tout le monde s'est confié.
Là, c'est vrai. Au deuxième abord, des fois, c'est plus compliqué. Non, mais au premier abord, ils sont très sympas.
C'était, voilà, d'aller chez des gens, de passer du temps avec des gens, de vivre chez eux, des gens dont on est aux antipodes par rapport à des opinions politiques ou des choses comme ça, mais d'écouter, de comprendre. C'était vraiment le sens de notre aventure, d'avoir même un peu d'empathie pour ces gens parfois.
Bien sûr.
Et d'être touché. Oui, on est, c'est vrai que c'est le décalage avec le livre qui peut paraître un peu extrême, parce qu'évidemment, il faut faire un choix. Et le livre compte 20% de tout ce qu'on a vécu. Mais on a été vraiment touché par ce peuple et ces problématiques qui sont différentes d'un État à l'autre, parce que finalement, chaque État est un petit pays part entière.
Et vous expliquez, il faut comprendre ces gens, parce qu'en fait, avant, le centre des États-Unis, géographiquement, c'était son centre. Maintenant, il est évident que ce sont les parenthèses New York à l'est et Los Angeles à l'ouest, et que ces gens, en fait, à force d'avoir été remplacés par des machines, doivent trouver un sens à leur vie. Il n'est pas toujours évident, et parfois c'est l'hostie, d'autres fois, c'est les armes, et puis, etc., etc. Et on comprend le long glissement d'une société américaine vers autre chose. C'est autre chose que le 5 novembre prochain, ils mettront dans une urne d'ailleurs. Catherine, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert?
Ce qui m'a beaucoup intéressée assez rapidement, c'était en écoutant toutes ces personnes avec des écarts incroyables dans leur façon de vivre, leurs ressentis, leurs pensées, d'explorer cette frontière, justement, vous l'évoquiez au début, de cette frontière ténue entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est bien? Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est mal? On est en plus dans un pays qui est gigantesque, avec autant d'États que de pays presque, où il y a des cultures extrêmement diverses. Les autochtones, les hispano-américains, les afro-américains, des États de la Bible Belt, des États beaucoup plus entre guillemets modernes, parce que grandes villes, Los Angeles, New York, etc. Et donc c'est un petit peu comme si on était sur la scène du monde, sur la scène de l'humanité, et de se demander au fond chacun comment on se place chacun dans cette scène, et en quoi on peut faire bousculer les choses, mais en se pensant d'abord soi-même, avant de juger les autres.
Gorian.
Catherine Marine, la couverture de votre livre montre évidemment le dernier plan du film de Ridley Scott, cette Thunderbird turquoise qui s'envole au-dessus du Grand Canyon avec Thelma et Louise à l'intérieur. Que signifie finalement cette fin, fin de Thelma et Louise?
Chacun a sa petite idée.
On a spoilé la Terre entière avec cette couverture, mais c'était un choix. Mais pour nous, cette fin, elle veut dire deux choses très différentes. Pour Catherine, c'était un envol, la liberté jusqu'au bout. Pour moi, c'était un suicide, c'est-à-dire que la seule issue est la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, Ridley Scott a tourné d'autres fins, en se disant, mon Dieu, la voiture qui tombe au fond du ravin, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, et notamment aux religieux, puisqu'on parle quand même d'un suicide. Et donc, plusieurs fins ont été envisagées, et on le raconte dans le livre. C'est amusant pour nous de les découvrir, parce que certaines ont été filmées. Mais justement, ce qui est beau avec cette fin, c'est que chacun y voit un peu ce qu'il veut y voir.
Et puis, il y a beaucoup de métaphores dans ce film, dans Thelma et Louise. La Thunderbird, c'est pas par hasard. Thunderbird, en anglais, ça veut dire l'oiseau tonnerre. On est sur le territoire des Navajos. L'oiseau tonnerre est un des symboles les plus importants chez le peuple Navajo. Et l'oiseau tonnerre relie le spirituel à la terre, le possible à l'impossible, et laisse un espoir énorme. Et c'est pour cela, je pense, que je vois un envol. C'est parce qu'il y a cet espoir et une continuité. On continue la route tous ensemble.
Alors que c'est probablement aussi parce que vous êtes optimiste, parce que Newton l'a assez bien démontré que, en fait, la suite, elle n'est pas super, super. Catherine et Marine, merci beaucoup d'avoir été nos invités. À la vie, à la mort, sur la route avec Thelma et Louise, c'est édité chez Paulsen. Quelle belle idée vous avez eue, je trouve. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Entrez sans frapper sur la première.
11h30, 13h.
Amérique encore bien plus à l'est, à New York, il y a Paul Auster qui publie un nouveau roman, Gorian Delpatieu.
Oui, aujourd'hui je vous emmène aux USA, dans la ville universitaire de Princeton, New Jersey, pour le nouveau roman de Paul Auster, un petit bijou de littérature, ah. Baumgartner. C'est traduit chez Actes Sud. Paul Auster, il a eu 77 ans au mois de février dernier. C'est un auteur américain hein, qu'on ne présente plus, avec des romans à succès comme Moon Palace, Mister Vertigo ou encore ceux qui composent la trilogie new-yorkaise. Paul Auster qui souffre d'un cancer, hein, malheureusement. Et Paul Auster qui n'avait plus publié de roman depuis un petit temps, hein, déjà. Le dernier, c'était le très gros 4-3-2-1 en 2017. Il y a 7 ans donc. Bon, entre-temps, il a publié une immense biographie du journaliste Stephen Crane en 2021 et un essai sur les armes à feu aux USA. Hein, je vous en avais parlé en 2023. Et Paul Auster nous revient donc avec un roman, Baumgartner, un court roman, hein, 200 pages, ce qui est rare hein, chez Paul Auster. Et c'était le projet hein, de Paul Auster d'ailleurs, écrire un livre très court, lui qui restait sur 4-3-2-1 et Burning Boy, deux livres de près de 1000 pages chacun. Et Baumgartner, c'est un roman court de 5 chapitres, paru aux USA en 2023, et que Paul Auster a terminé avant de découvrir qu'il avait un cancer. Alors, de quoi parle ce roman et qui est Baumgartner? Ce n'est pas hein, le parachutiste autrichien qui a sauté depuis l'espace, rien à voir. Baumgartner, c'est le nom de famille du personnage principal du roman, Seymour Tecumseh Baumgartner, qu'on appelle aussi S.T. Baumgartner, ou encore plus simplement Sy. Et au début du texte, au premier jour de printemps 2018, on découvre Sy dans sa maison de Princeton sur Poe Road. Et j'ai vérifié, ça existe. Sy est un professeur d'université retraité. Il a 70 ans. Il travaille dans son bureau à une monographie consacrée au pseudonyme du philosophe danois Søren Kierkegaard. Et ce jour-là, il attend le coup de fil de sa petite sœur Naomi. Il attend aussi la visite d'un agent du gaz qui doit venir relever son compteur à la cave. Et surtout, il attend le coup de sonnette de la jolie Molly, la jeune livreuse noire du PS qui lui amène les livres inutiles qu'il commande juste pour le plaisir de discuter quelques secondes avec Molly. C'est une manière pour Sy Baumgartner de remplir le vide laissé par la mort de l'amour de sa vie Anna. Eh oui, Sy, il est veuf. Anna, poétesse, traductrice, l'épouse de Sy, est morte accidentellement 10 ans plus tôt, à 58 ans. Son cou a été brisé par une vague trop forte alors qu'elle se baignait à Cape Cod, dans le Massachusetts. Et tout le roman va nous plonger dans le deuil vécu par Baumgartner depuis la mort accidentelle de sa femme. Un deuil qu'il vit comme un amputé des membres qui ressent encore leur présence. Vous savez, ces fameux membres fantômes hein, que les amputés sentent encore même s'ils ne sont plus là. Eh bien, pour Paul Auster et son personnage de Baumgartner, le deuil, c'est la même chose. Le deuil est comparable à la souffrance et aux effets consécutifs à une amputation. D'ailleurs, Paul Auster a failli appeler le roman « Membre fantôme » tellement il trouvait la comparaison puissante. Bien sûr, comme c'est un roman sur la mort d'un être cher, il y a de la tristesse hein, dans les pages de Baumgartner, mais il y a aussi et surtout beaucoup de joie parce que le deuil du personnage principal est aussi un travail sur la mémoire et sur les souvenirs de son histoire avec Anna. Et la mémoire de Baumgartner, qui commence à lui jouer des tours, hein, il a 70 ans, le ramène très régulièrement vers les très bons souvenirs, comme sa rencontre fortuite avec une Anna de 18 ans dans un magasin d'ustensiles d'occasion à Manhattan. Pas un mot échangé, rien que deux ou trois regards, se jaugeant, évaluant les chances potentielles de ce qui pourrait commencer à se passer ou pas si quelque chose commençait à se passer. Un petit sourire esquissé par elle, par lui, mais ce fut tout. 8 mois s'écoulèrent avant qu'ils ne la croisent de nouveau. Puis il y aura leur nuit d'amour dans son petit appartement à lui, les lettres qu'ils échangeront quand ils seront loin de l'autre, leur envie d'avoir un enfant sans succès, leur carrière littéraire à tous les deux. Baumgartner, c'est une magnifique histoire d'amour, d'autant plus belle qu'elle est terminée peut-être. Et Baumgartner, c'est aussi un roman drôle, avec des chutes, mais des vraies chutes, hein, tombe, comme un bon vieux film de Buster Keaton, avec des moments de maladresse tendre, comme quand Sy retombe amoureux des années après la mort d'Anna, ou quand il décide de publier les poèmes inédits de sa femme. C'est aussi, comme souvent chez Auster, un texte rempli de références autobiographiques déguisées. Baumgartner est né en 1947, comme Auster. C'est un juif américain né de parents venus d'Europe, comme Auster. Il a vécu à Paris et il a échappé à la guerre du Vietnam, comme Auster. Le nom de la mère d'Anna, c'est Auster. Comme Auster, hein, facile celui-là. Et le nom de famille d'Anna, c'est Anna Blum, comme le roman de Paul Auster, Le voyage d'Anna Blum. Vous voyez, il y a de quoi s'amuser. Et Paul Auster s'est amusé aussi en greffant d'autres textes à son roman. On va lire des textes dans le texte, puisque Baumgartner nous livre des textes écrits par Anna, un texte en prose sur son tout premier amoureux, ou un poème intitulé Lexique. Mais aussi, on aura droit à une fable écrite par Baumgartner, une visite de Baumgartner sur la terre de ses ancêtres, en Ukraine. Bref, c'est un bric-à-brac littéraire, un fourre-tout surtout d'anciens textes de Paul Auster, peut-être. C'est en tout cas ce que la critique américaine a reproché au livre à sa sortie en 2023. Oui. Les critiques ont senti qu'Auster recyclait d'anciens projets et surtout qu'il n'allait pas vraiment au bout de sa démarche. Et c'est vrai que la fin du roman est un peu abrupte, mais moi, je l'ai vu comme le début d'une saga où on continuera peut-être à suivre les réflexions de Cy Baumgartner. En tout cas, j'espère lire d'autres livres consacrés à ce vieux professeur d'université. J'ai été séduit vraiment par cette pipette de 200 pages. Baumgartner de Paul Auster, traduit l'américain par Anne Lortissus, c'est chez Actes Sud.
Merci Gorion Despatu.
Merci à vous.
Oh, je vais le lire. Merci Evians, merci Catherine Robert, merci Marie-Agnès Baupin, merci à vous de nous être fidèles. Marie-Laure de Kerckhoff pour les informations.
La première,
l'esprit clair. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.